Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Bonjour à tous, chers gladiateurs. Alors cette semaine, c'est carrément les rétières qui vont être à l'honneur, puisque... Les gladiateurs, c'est les seuls équipés de filets de pêche, puisque naturellement, vous vous en doutez bien, on va parler des océans, de l'UNOC, à l'occasion de l'UNOC, qui se tient en ce moment même à Nice, et où on va retrouver Ben, qui joue les grands reporters, et donc on va pouvoir faire un duplex tout à l'heure avec lui, ainsi qu'avec David Pierre, que vous connaissez maintenant. Et en studio, aujourd'hui, on a une grande dame des océans, une grande dame Nicole King, à la fois par la taille, je dois le dire, j'ai découvert ça tout à l'heure, et puis aussi par le parcours à la fois scientifique et artistique, puisque vous êtes à la fois, donc vous avez été une scientifique océanographe, biologiste.
J'étais ingénieur environnement dans une industrie pétrolière où j'étais responsable des études d'impact des nouveaux champs offshore et ensuite expert eau et pollution au Fonds mondial pour la nature.
D'accord, et puis maintenant vous êtes...
éco-artiste.
Voilà. Et donc on me dit que Ben est à l'antenne. Ben, t'es bien là?
Non, mais moi je suis presque sur la plage.
Au bord de la Méditerranée. Avec une glace, alors que nous on crève de chaud dans le studio. Vas-y, fais-nous le biscuit.
C'est très important de pouvoir parler de sensibilisation aussi via les travaux artistiques des uns et des autres. Et notamment des femmes, la moitié du ciel. Là, il y a vraiment
Ben, commence pas tout de suite, on va te redonner la parole. C'était juste pour savoir que tu étais bien là, donc c'était un petit bonjour, un petit coucou que tu devais nous faire là.
Et bronzé.
Voilà. Bon, t'es avec David Pierre donc?
Oui, bien là.
Bon, ben voilà, on va pouvoir commencer, donc impeccable. Donc oui, genre je disais, on est avec Nicole King en studio, donc Nicole King... qui est aujourd'hui artiste, hein, peintre pour tout dire, et puis pédagogue en deux mots. Oui, très très vite. Hein.
Oui, je suis responsable d'un atelier qui s'appelle l'éco-école de Nicole, à l'internat de la réussite de Marly-le-Roi, où il y a 150 collégiens et lycéens, et je leur fais des cours d'art plastique, dessin, peinture et récupère à partir de matériaux recyclés, pour leur apprendre à s'émerveiller des beautés de la nature.
Et puis tu exposes tes tableaux dans des galeries parisiennes.
Oui, ou dans les grands salons. Je suis sociétaire du Salon d'automne et j'ai exposé au Congrès mondial de la nature à Marseille pour l'IUCN en 2021, aux Assises nationales de la biodiversité en septembre dernier à La Rochelle.
D'accord. Alors l'idée aussi qu'on avait pour se démarquer un petit peu des autres émissions qui ont forcément... lieu sur le sujet de l'UNOC, c'était peut-être aussi de mettre un grain d'art et de culture dans ces débats à la fois scientifiques et politiques, parce qu'effectivement, il faut aussi maintenir un émerveillement face à la mer et aux océans, bien que les menaces soient présentes. Il faut continuer par contre à aussi regarder la mer et bon, les océans.
La beauté des merveilles de l'océan.
Bon, bah écoutez, voilà le sujet. On aura trois temps. Le premier, on va faire avec Ben, tu pourras rentrer tout à l'heure dans le détail de la diplomatie internationale. Après, David Pierre, tu nous expliqueras les pouvoirs locaux et les océans. Et puis, avec Nicole, on terminera sur, justement, comme je le disais à l'instant, art et océan, art et écologie en général. C'est une thématique qu'on va sûrement creuser à l'avenir. Donc voilà, bah écoute Ben, je te passe le micro dans le tempo, dans le timing. Tu as 4 minutes pour lancer ta chronique, pour nous dire un peu ton sentiment.
Par le simple fait que cette conférence est quand même une... je ne sais pas si c'est une réussite de la diplomatie Macron ou de la diplomatie française ou franco-costaricaine, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez novateur. On dit parfois que Nice est devenue la grande capitale des mers et des océans, Mais en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que c'est assez récent, toute cette mobilisation autour de l'océan et des mers et de cette nouvelle approche de la question des océans. Je pense que c'est pourquoi ça a été si compliqué à mettre en place. C'est parce qu'au fond, il y a la gouvernance des océans, eh ben, elle n'est pas entre les mains d'une seule organisation. Ça dépend aussi de la question du transport, donc l'Organisation maritime internationale, ça dépend aussi du commerce, donc de l'OMC à Genève. Il y a aussi la question de la biodiversité, de l'environnement, donc du programme des Nations Unies pour l'environnement, et de l'alimentation, puisque, ma foi, ça fait partie aussi de l'économie bleue, et donc de la FAO. Tout ça, ça vous montre jusqu'à quel point c'est un processus assez lent. Pour vous donner un seul exemple, l'idée de célébrer le 8 juin la journée mondiale de l'océan, eh ben c'est une idée qui remonte à 1992 au sommet de Rio. Et ce n'est qu'à partir de 2008 qu'on a décidé à l'Assemblée générale des Nations Unies de graver ça dans le marbre. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. La question, par exemple, des bruits sonores de l'océan, ben c'est quelque chose qui remonte à une décision de 2004 par IMO, l'Organisation maritime internationale. Donc vous voyez, c'est très disparate et ça prend beaucoup de temps. Le premier UNOC, entre le premier UNOC et maintenant, c'est assez récent. C'est pas comme pour le climat où on en est à la COP 30. Donc ça, je pense qu'il fallait le dire en introduction. Le deuxième aspect qui est intéressant et qui montre aussi le côté novateur, ce sont les nouveaux acteurs qui sont en train d'entrer dans la danse. Et dans cette spécificité, on voit par exemple des ONG, beaucoup d'ONG de femmes. Là, la moitié du ciel est encore très mal représentée, puisque 12% à peu près à l'échelle mondiale, c'est 12% des ministères qui sont en charge de l'océan sont dirigés par des femmes. Mais bon, c'est quelque chose qui avance. Vous prenez l'IRD, en France, il y a une vraie politique de féminisation, et d'ailleurs, l'IRD, l'Institut Recherche et Développement, est dirigé par une femme. Mais c'est un nouveau. Alors, il y a quelque chose encore qui va intéresser Nicole, et qui est très, très important, c'est Women Action for the Ocean, et qu'on appelle ici le WOW. Et ça fait partie Bon, ça peut paraître anecdotique, mais au fond, je pense qu'il y a quelque chose, à la fois une nouvelle génération, de nouvelles ONG aussi, et effectivement, une grande mobilisation des femmes.
Bon, bah écoute, tout c'est ça, très bien, c'est, Ben. Tout ça fait voilà, partie des nouveautés. On va faire une petite transition. Et puis, pour une fois, on est dans le tempo. Hein. Bon, s'il y a temps, ça fait 8 minutes qu'on a démarré. On est encore à l'heure, c'est bien. Bah écoute, moi, en plus, ça a bien simplifié, l'UNOC a simplifié mon agenda, puisque au moins, pour une fois, on sait où est Madame la Ministre. Hein. Là, elle est carrément à Nice. Alors, c'est vrai que ça a commencé dès dimanche. Elle a tenu un point presse à distance. Comment dire ? Bon, je pense qu'elle nous avait enregistré son communiqué, puis que son cabinet nous a diffusé. Et après, effectivement, il y avait à peu près une cinquantaine de journalistes en ligne pour écouter la parole du cabinet du ministre, où ils nous ont détaillé les points, les différents points, et notamment cette question cruciale qui est celle des zones protégées marines, des aires marines protégées. Avec la polémique qui n'a pas manqué d'apparaître sur qu'est-ce que c'est qu'une qu'est-ce qu'on entend par protection dans ces fameuses aires, et ensuite la bataille de chiffres entre les 14, si on prend les aires protégées marines françaises pacifiques, ou si on s'en tient uniquement aux aires protégées atlantiques, qui est là par contre on tombe sur 4%. Mais bon, on y reviendra peut-être sur cette bataille de chiffres. En tout cas, comme de toute manière, on aura une émission pour le débriefing de l'UNOC, on pourra effectivement tirer cette affaire au clair, parce que ça manque pas d'un peu de polémique. Les derniers échanges avec Bloom sont carrément sarcastiques, je ne vais pas vous les dire, mais bon, ça se balance entre le cabinet du ministère et puis Bloom, ça se jette des grands seaux d'eau en se traitant de menteurs les uns les autres. C'est vrai que pour tirer l'affaire au clair, ça va être un peu compliqué. Mais bon, donc voilà, je ne vais pas en dire plus maintenant. Nicole, alors...
Bon, moi, je voudrais quand même citer une question clé, c'est la protection des grands fonds marins. On a demandé un moratoire, Macron est quand même leader là-dessus. Enfin, la France et le Costa Rica ont décidé de demander un moratoire pour l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Et là, on a un gros problème parce que Trump vient d'assigner un décret donnant l'autorisation d'exploiter, même en dehors de sa zone économique exclusive. Donc c'est complètement illégal et ça bloque ce qui peut se passer à l'UNOC, puisque les Américains ne sont pas là.
Alors les nodules métalliques, polymétalliques, si je me souviens bien, quand j'étais gamin, j'en ai déjà entendu parler, quand j'étais gamin, vous imaginez combien ça fait longtemps, j'avais cru qu'il y avait un moratoire.
Mais c'est très très urgent parce que c'est le dernier écosystème de la planète qui n'est pas exploité.
Oui, mais jusqu'à maintenant, j'avais cru comprendre qu'il y avait un consensus en se disant « Oulala, on n'y touche pas ».
Il n'y a pas de loi. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut de protection des grands fonds marins, dans lequel les États-Unis ne participent pas, par exemple. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas décidé d'y participer.
Alors, on avait des embryons de moratoire, de conscience collective, mais M. Trump vient mettre les pieds dans le plat.
Juste avant l'UNOC, il a signé ce décret.
Non, il déclare la conquête de l'Ouest.
Voilà. Ça, c'est très grave. Moi, je voudrais témoigner en tant qu'ingénieur qui a travaillé dans le pétrole, parce qu'une fois qu'on donne accès à l'écosystème, en fait, c'est ça le plus grave. Quand il y en a un qui accède, et ça, je l'ai vu, moi, dans les forêts primaires de Bornéo, où je suis allée quand il n'y avait personne qui avait mis les pieds dans cet environnement. Et c'est les pétroliers qui ont ouvert les routes, qui ont ouvert l'accès. Une fois qu'il y en a un qui y va, tout le monde y va et c'est la destruction. Bon. Donc, il faut bénéficier de ça au niveau de l'expérience pour les grands fonds marins.
Oui, qu'il ne faut surtout pas ouvrir la porte.
Voilà.
Bon, écoutez, je ne sais pas si on va la fermer, mais on va se faire une petite pause musicale pour prendre un peu de respiration et puis rentrer dans le détail. Donc Ben, écoute, prépare-toi, hein, parce que c'est toi qui vas nous exposer par le menu cette histoire de ces multiples couches de la diplomatie océanique.
La mer. La mer. Vois danser le long de golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond.
Eh bien, nous voilà revenus. Ben, t'es prêt ?
Oui. Bon, alors maintenant, je pense que c'est juste de dire que ça a été un wake-up call, un élément déclencheur.
Je crois qu'on n'a pas entendu le début de ta phrase, cher ami. Si tu peux nous reprendre.
On m'entend pas ?
Si, on t'entend, mais on a dû rater les premiers termes de ta phrase.
Non. Je pense à la décision de Trump d'aller en avant en considérant que c'est le nouveau Far West et de pouvoir nous gratifier de l'exploitation de certains minerais dans les fonds marins. Ça, c'est quelque chose qui a, au fond, réveillé, je dirais, ONUC 3. Je pense que c'est paradoxalement, c'est quelque chose qui peut nous servir. Il y a un flou sur cette idée de on va avoir un traité sur la haute mer, et ce traité, ma foi, il faudra que tout le monde se mette d'accord au moins pour un moratoire. Le mot moratoire ne veut pas dire interdiction. C'est là l'une des ambiguïtés de cette diplomatie-là, qui est aussi la position de Macron. Et de dire, ben, après tout, on va plus ou moins déléguer notre décision, qui est pourtant une décision politique importante, on la délègue en disant aux scientifiques de faire leur boulot.
Bah, entre parenthèses, j'avais cru comprendre, ils avaient déjà dit que ce serait trop dangereux de toucher ça.
De l'Agence de l'océan et de l'atmosphère, donc la NOAA, qui ont reçu l'interdiction de venir à Nice. Donc ce n'est pas si évident de pouvoir se reposer sur l'avis des scientifiques à l'heure qu'il est. Mais pour l'instant, on est dans cette histoire de moratoire. Là encore, il y a un deuxième flou, c'est qu'il faudrait qu'il y ait au moins l'accord et la ratification pour ce traité de haute mer de la part de 60 États. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Le site de l'Élysée, fait mention de 50 États qui seraient potentiellement destinataires. Mais eux aussi, le fait qu'ils décident qu'ils vont effectivement cautionner ce traité, ça ne veut encore rien dire, parce qu'il faut qu'ils rentrent à la maison, et une fois qu'ils sont à la maison, il faut aussi le temps d'une ratification. Donc voilà, on est quand même dans ce flou actuellement. Et pendant que ce flou persiste, il y a déjà des entreprises qui sont prêtes à aller de l'avant, dont des entreprises canadiennes, d'ailleurs financées en partie par les Suisses, d'autres. Alors la Norvège, par contre, a fait marche arrière, mais enfin le processus n'est pas arrêté pour l'instant. Voilà ce que je peux dire.
Que disent des autres grandes puissances ? Parce que Trump n'est pas la seule grande puissance. Je ne sais pas si la Russie se prononce sur le sujet, mais que dit la Chine ?
La Chine est avec la France pour ça. Par contre, la Russie est d'accord avec Trump.
D'accord. Bon, voilà
Puis, il faut quand même différencier entre le BBNJ, c'est-à-dire la Biodiversity Beyond National Jurisdiction. C'est le traité de la haute mer qui veut protéger la biodiversité principalement. Ça, c'est une chose. Et puis, le moratoire pour l'exploitation minière des grands fonds, c'est un autre sujet. Ce n'est pas la même chose.
D'accord. Ça aurait été trop simple. Bon, Ben, quoi d'autre ?
Non, mais c'est pas fini, cette histoire sur les fonds marins. Ça, il faut bien qu'on se rende compte, même si on a quelques signatures pour l'instant. C'est quelque chose.
C'est à plusieurs
milliers de mètres de profondeur.
La question des financements, les objectifs du développement durable, s'il y en a 17, il y en a une qui est donc les ODD 14 et qui concerne vraiment tout ce qui se passe ici à Nice. Eh bien, c'est quand même, l'ODD qui est la moins fournie, la moins pourvue. Et là, il y a un vrai travail à faire et qui a commencé maintenant. Ça s'appelle le One Ocean Finance. C'est une nouvelle plateforme de financement de l'économie bleue. Mais pour l'instant, ODD 14 a reçu à peu près... si mes comptes sont bons, à peu près un 17e de ce qu'ils étaient supposés recevoir. Donc ça, c'est un autre problème qui est loin d'être réglé.
Ok. Yes. Ben, tu nous entends, t'as le retour ou pas ?
Oui, parfois.
Parfois, tu ne nous entends pas.
Ben, qu'est-ce qui se passe avec le traité contre la pollution plastique ?
Alors oui, j'aurais pu parler aussi du plastique, c'est vrai.
Ah, il y a quatre points, il paraît. Nicole m'a dit qu'il y avait quatre grands points. Donc, on en a coché un.
Deux.
Allez, maintenant plastique, on va dire que c'est le 3. On t'écoute,
vas-y.
Ben.
Vas-y, sur le plastique. Non. Bon, sur le plastique, c'est même pas un risque, c'est plutôt un bon présage. C'est que ce qui n'a pas été décidé en Corée il y a à peu près 9 mois, il y a de fortes chances que un traité puisse être conclu à Genève à partir du mois d'août. Et il semblerait, selon les informations dont moi je dispose, que ce sont les industriels qui sont prêts aujourd'hui à accélérer le processus pour une raison très simple, c'est qu'ils auraient trouvé aussi des moyens de mobiliser non pas seulement des moyens financiers, mais surtout de s'être mis d'accord pour développer une technologie de destruction en amont. Voilà où on en est pour la question...
En amont, comment ça ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire de la destruction des déchets plastiques ?
Oui, absolument. Ouais. Là, il y a vraiment pas mal de startups qui s'y sont mises. Et on peut espérer qu'on ne va pas faire seulement de la récup. On a remis en question tout ce qui était le recyclage. Et on peut imaginer qu'un certain nombre de pays se mettent d'accord pour qu'on essaye vraiment, non pas de recycler du poison, mais carrément de l'interdire.
Oui, j'ai pas tout compris.
Il faut produire moins, parce que c'est un polluant tellement... Enfin, qui se retrouve partout en grande quantité, donc il faut l'interdire en amont, parce qu'une fois que c'est rejeté dans l'océan,
oui.
C'est foutu.
Oui, exactement, c'est ça, exactement, Nicole. Oui, ça fait partie...
On a des dizaines de millions de tonnes qui se déversent de plastique chaque année dans les océans. On a un camion toutes les 20 minutes, un camion poubelle, même plus que ça. Enfin, c'est invraisemblable.
Mais si on... Comment dire, c'est des masses faramineuses.
Faramineuses, donc on a le septième continent, on a des gyres de plastique dans tous les grands océans du monde qu'on appelle le septième continent.
Alors les gyres, c'est des amas qui sont flottent. Constitués par les courants qui viennent s'agréger.
Voilà, et il y en a dans tous les grands océans, et c'est des surfaces énormes, et ça c'est ce qu'on voit, mais après il y a tous les microplastiques qu'on ne voit pas, qui contaminent toute la chaîne trophique, c'est-à-dire que l'écosystème, depuis le plancton jusqu'au thon que nous mangeons, est contaminé par le plastique.
Et ce qui fait que même nous, on est contaminés.
Nous en mangeons tout le temps. Une carte, vous savez que le WWF Australie a publié une étude, nous avalons une carte, comme l'équivalent d'une carte bancaire, toutes les semaines en plastique.
Ah oui, toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Oh, mon banquier ne me l'a pas dit, ça. Je t'en ai pas vanté.
Je vois que ça te fait rêver, les cartes bancaires, à ce point.
Écoute, de temps en temps, j'aimerais bien en avoir des plus fournis. Mais donc, alors ça, c'était un troisième point. Le quatrième point, Nicole.
C'est est-ce que les aires marines sont vraiment protégées ?
Les aires
marines. Donc, le but c'est de faire 30% pour 2030. Hein, c'est 30 pour 30. C'est le grand but qui a été lancé en 2021 au Congrès mondial pour la nature, où j'ai participé. On a demandé que 30% des terres et des mers soient protégées d'ici 2030. On en est très très loin.
Alors, on a effectivement un problème de chiffres, mais on a un problème de mots sur cette histoire d'aires marines protégées, mais d'ailleurs, les aires terrestres protégées ont aussi ce problème de mots sur la notion de protection. Qu'est-ce que ça veut dire, protection ? Est-ce que... parce que quand on... Alors là, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une grosse polémique, mais semble-t-il, c'est qu'on nous fait un peu prendre des vessies pour des lanternes.
Oui.
Il vaudrait mieux parler d'aires marines sous surveillance ou sous essai de contrôle. Mais par contre, effectivement, si on peut continuer à pêcher avec
des chaluts de fond qui raclent absolument tout...
C'est pas du tout ça de la protection.
Ils jettent 75% de ce qu'ils attrapent et rejetés morts à la mer.
Ouais, ça c'est monstrueux.
Donc c'est-à-dire c'est un symbole de notre société de gaspillage parce qu'on ne
reste... Là, on est carrément dans l'ultra gaspillage.
On ne respecte pas le vivant.
C'est comme si on tuait des cochons, on ne mangeait que les jambons, quoi.
Voilà, ou qu'on va dans la forêt, on coupe tout pour prendre un arbre.
D'accord.
C'est à peu près ça.
Mais ça, effectivement, c'est cette idée de non-droit, que l'océan est une zone de non-droit.
Mais là, je voudrais quand même qu'on parle du vivant, parce qu'on parle toujours du climat, du climat, qui est omnipotent au niveau de toutes les négociations. Il faut beaucoup plus parler du vivant. Et dans l'océan, c'est ça qui est très grave, c'est la surpêche et la destruction de la biodiversité marine en grande quantité. Et l'océan s'appauvrit, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans la mer.
Bon, bah ça, c'est vrai que ça fait peur, Mais on a du mal à imaginer ça parce que les étals de poissonniers sont fournis. C'est pas...
Oui, mais plus du tiers des ressources halieutiques sont surexploitées. C'est-à-dire qu'on empêche plus que la nature ne peut régénérer. Donc ce n'est pas durable.
Donc là, pour le coup, c'est effectivement une limite planétaire largement dépassée et qu'on massacre.
Et là, les Français sont très forts là-dedans. Parce
dans
que
quoi
là,
dans
la gestion des populations. Il y a l'IFREMER qui a une très grande expertise, qui est l'organisme scientifique français pour la mer.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Et moi, j'y ai travaillé en tant qu'étudiante. Et donc, ils ont des techniques de gestion des populations qui sont tout à fait au point et qui sont mises, par exemple, pour la coquille Saint-Jacques. On mesure combien il y en a et combien on peut empêcher pour que ça survive, pour que les populations soient durables. Donc, il y a des techniques. C'est oui. juste une volonté politique de les rendre appliquées partout. Et donc là, on a le problème dans la haute mer qui représente les deux tiers de l'océan de la planète, il n'y a pas de loi. Donc d'accord. Il y a les Chinois qui ont 12 500 navires industriels, qui pêchent tout et qui sont de la pêche illégale. Et ils éteignent. Vous n'avez pas vu Thomas Pesquet qui a fait des photos la nuit. Ils pêchent illégalement, en cachette, c'est-à-dire qu'ils éteignent leur radar, on ne sait pas qu'ils y sont, et ils raflent tout. Il n'y a aucune limite. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, parce que ça détruit complètement la vie marine.
Alors ça, effectivement, c'est un grand sujet. C'est vrai que déjà, rien qu'en France, on a du mal à savoir ce qui se passe et ce qu'il en retourne. Alors effectivement, la coquille Saint-Jacques, là, moi j'ai récupéré en ligne le rapport des chiffres clés de la filière pêche et aquaculture en France, publié sur le site de France Agrimaire. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est à la fois en valeur et à la fois en tonnage, la production la plus importante. On récupérerait 26 000 tonnes de coquilles. Alors, je ne sais pas si c'est coquilles plus, et sable compris, et noix. Une fois décortiqué, ça doit faire moins lourd. Mais bon, il y en a quand même pour 70 millions, quoi. Et effectivement, semble-t-il que la coquille Saint-Jacques, c'est un exemple plutôt d'une gestion réussie. J'ai des amis à Erquy, qui est un grand port coquillier, et dans la baie de Saint-Brieuc, la coquille Saint-Jacques, elle va plutôt bien.
Oui, parce que les populations sont gérées. On sait la taille de ce qui existe, on sait qu'il ne faut pas les pêcher avant tel âge, et on sait qu'il ne faut pas en pêcher plus qu'un certain nombre pour qu'elles reviennent. Et qu'elles se reproduisent suffisamment.
Alors, on ne les récupère pas en plongée, on ne va pas les chercher une à une. J'ai bien cru comprendre que c'était des petits chaluts.
Oui, mais on étudie les populations pour savoir
Hier soir, à la télé, j'ai cru comprendre Monsieur le Président qui nous disait qu'on ne peut pas interdire les gros chaluts de fond parce qu'on ne pourrait plus avoir de coquilles Saint-Jacques. Hein. Ben, il se moquait de nous, quoi.
Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de la coquille Saint-Jacques.
Les coquilles Saint-Jacques, ça se ramasse, semble-t-il, avec des petits chaluts. Comme quoi, on peut utiliser certains outils, si c'est bien géré, tout en préservant la ressource.
Voilà, oui.
Et à partir du moment où... C'est la mer qui doit donner la réponse, ou du moins, c'est la
vivant. C'est ça, mais il faut connaître la population. Il faut l'étudier, la gérer. Et donc, quand vous voyez les pays africains où les pauvres pêcheurs locaux n'ont plus du tout de poissons parce qu'il y a les Chinois et les autres qui viennent avec leurs gros bateaux-usines et qui raflent tout, et là, il y a un problème de gestion des stocks.
Oui, mais... Donc là, effectivement, il est grand temps de...
Il faut écouter la science.
Voilà, il est grand temps peut-être de créer une agence spéciale océan. Qu'est-ce que t'en penses, Ben ? On a perdu Ben ?
Je dirais même, et ça a quand même... C'est apparu dans certaines conversations ici, c'est de pouvoir disposer, dans les années qui viennent, d'une nouvelle gouvernance. Et ça serait comment ? Ce serait un ministère qui soit à la fois un ministère des océans et du climat. Je pense qu'on se dirige...
Pour la France ou quand tu parles de ministère, tu veux parler d'une grande agence mondiale ?
Alors, il y a les deux. Il y a au niveau étatique, je reprends par exemple la déclaration de Lula qui était là l'autre jour. Et c'était intéressant parce qu'il faisait la connexion entre l'Amazone bleue du Brésil, en parlant de son pays en tant que pays océan. j'ai vraiment senti pour une fois qu'il y avait cette, il y avait plus cette espèce de scission entre d'une part ces gens qui parlent d'océanographie et le reste. Là, c'est vraiment l'Amazon bleu. J'ai trouvé ça intéressant. Et si on dispose d'un ministère qui soit à la fois océan et climat, on peut aussi imaginer qu'il y ait une autre organisation, l'équivalent de la FAO, qui s'occuperait des questions maritimes.
Eh ben ça, je vais te proposer de nous laisser 3 minutes le temps qu'on passe une petite pause musicale et on va réfléchir au sujet et on va voir, avant de lancer David Pierre sur les pouvoirs locaux, voir s'il n'y aurait pas quelques pistes à creuser sur le sujet. Eh bien écoute, on va écouter un petit peu de musique.
Ariel, écoute-moi, le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent et ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit c'est l'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage,
il finira dans la poêle.
Oh non, sous l'océan, y'a pas de courbouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non, sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan,
sous l'océan,
sous l'océan.
La vie est super, mieux que sous la terre, je te le dis.
Oui, je te le dis, tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae.
On a le rythme, c'est la dynamique
sous l'océan.
Fliton au fliton, la carjoula,
la west coast, la basse, les rois du rap,
Mako au saxon, Togo au bango, le lieu est le dieu de la soul. La mer au dieu, mais le gardon au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton. Le bar et le swat se marrent et s'éclatent, vas-y, souffle mon doudou.
Eh bien, fallait bien un petit clin d'œil, donc c'était sous l'océan, vous avez tous reconnu la musique de La Petite Sirène de Walt Disney. Donc Ben, alors je ne sais pas si tu as des contes pour enfants à nous raconter, c'est vrai que quelquefois on a eu l'impression ces derniers temps d'avoir pas mal de on nous a raconté pas mal de contes, mais bon, cette idée de FAO de la mer, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ce serait pas idiot, parce que si j'ai bien compris, moi, l'océan aujourd'hui, il est géré que par, on l'aborde que par ses usages, la mer, le transport, la pêche, le transport et d'autres choses. Et il n'y a pas une grande maison des océans, quoi.
Et c'est intéressant parce que c'est aussi notre vision de ce monde-là. C'est-à-dire que pour nous, c'est d'abord une histoire d'exploitation de ressources. Et non pas l'habitat de milliers et de dizaines de milliers d'espèces qui méritent de vivre. Et peut-être que notre vision va changer aussi lorsqu'il y aura des négociations sur la surpêche, sur la fin de la surpêche, parce qu'on va pouvoir aussi responsabiliser les pêcheurs pour qu'ils voient les choses autrement. Je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se...
Alors,
de se
la produire. Liaison n'est pas terrible. Est-ce qu'il faut que tu secoues ton téléphone? Je ne sais pas comment ça marche, moi. Mais là, ça nous fait un peu de l'arsène. Vas-y, reparle, Ben.
Oui, ben, je voulais dire que c'était une autre vision... Une autre vision D'accord. de la mer que de considérer simplement la
En fait, il faut donner une entité dans, globale aux océans. C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est une aberration.
Absolument.
C'est les deux tiers de la surface du globe et on ne le prend pas pour une entité. Quoi. Mais moi, il me venait une petite idée.
On a eu un grand débat ici sur la Méditerranée, puisque c'est le 50e anniversaire de la Convention de Barcelone. Et il a vraiment... On essaye de faire en sorte que pour les différents acteurs, et qui sont pas seulement les politiques, mais c'est un bien commun de tous.
Mais est-ce que l'UNOC ne peut pas être justement le départ de cette idée? Est-ce que ce n'est pas le projet, l'agenda caché de notre cher président? Parce que je vous rappelle que dans 2 ans, il va quand même falloir qu'il trouve un boulot. Et comme il nous disait hier soir à la télé, ce n'est pas facile quand on est... On sort des emplois publics, de trouver des emplois à sa manière. Donc si on ne veut pas qu'il finisse chez Temu ou chez Scheim comme son copain Castaner, peut-être qu'il faudrait lui souffler l'idée de nous construire cette grande agence mondiale. Et puis après tout, pourquoi il briguerait pas la présidence de cette grande agence des océans? Qu'en penses-tu? Tu peux pas filer ça comme projet à Madame... Panier Runacher ouais. Ou cabinet
ouais, de... mais les considérations de politique intérieure sont
ouais, du temps fou, ouais, mais bon, si ce serait peut-être pas mal ça pour notre président, ce serait plutôt qu'elle ait finir chez Scheim. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense qu'on pourrait essayer de travailler sur la jonction entre l'ODD 14 et l'ODD 16.
Ok, super.
Et que davantage la question de la paix soit inclus dans toutes les négociations.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué.
Bon, mais parfait.
Ça fait, je crois aussi de faire de la paix. On l'a dit pendant très longtemps, faire la paix avec la Terre, c'était intéressant. Mais je pense que faire la paix avec l'océan,
ça apaisera les mœurs. Ok, Ben, on va. Tu nous prépares ça pour la semaine prochaine pour l'émission de retour. Et là, tu peux peut-être passer le micro ou le téléphone à David Pierre qui va nous raconter aussi ce qui s'est passé du côté des pouvoirs locaux.
De pied ferme. Il est en maillot de bain, mais de pied ferme.
Super, ouais, de toute façon, on n'a pas l'image. Hein.
Alors, ça va. Bah, du coup, puisqu'on me passe le micro, ben, bonsoir et ravi d'être là avec vous.
Salut, David Pierre. Alors, je rappelle, David Pierre, Guidicelli, alors, c'était carrément chez toi, puisque t'es quand même de Nice, avant d'être parisien.
Je suis du coup dans ma région, on va dire, dans la grande région sud, dans la région PACA.
D'accord, bah écoute.
C'est en effet proche de chez moi. Ça fait plaisir d'être là, d'ailleurs, ça change de Paris.
Voilà, mais c'est très bien, et puis je rappelle que tu es, tu fais partie de Cité Unifrance, qui est la grande association des affaires étrangères des villes et des pouvoirs locaux. Donc voilà.
Voilà. C'est très gentil de dire grande association. D'ailleurs, oui, en effet, on est le réseau des.
J'ai pas dit grand budget, mon cher ami.
Engagé à l'international, et c'est très d'actualité d'ailleurs. Puisque, alors, j'étais vraiment le nez dedans, du coup, je ne sais pas comment est-ce que les médias en ont parlé, et peut-être ça me fera plaisir d'avoir aussi le retour des autres personnes autour de cette table virtuelle, mais samedi était une journée dédiée aux pouvoirs locaux. C'était la journée de lancement d'une coalition des villes et régions côtières, et en fait, on parle beaucoup de l'UNOC a démarré lundi, mais avant cela, il y avait 3 temps forts, un temps fort dédié à la recherche, un temps fort dédié à la Blue Economy, qui s'est tenue d'ailleurs à Monaco, et un temps fort dédié aux villes et régions, temps fort dédié aux collectivités territoriales. Et un moment assez important, puisque ça faisait plusieurs années maintenant que Nice y travaillait, et d'autres villes également, un temps fort qui a permis le lancement de cette coalition, la volonté d'avoir un vrai pouvoir qui cristallise ce que font
les villes et les régions. Et le mot principal qu'on a entendu les maires et les chefs de région dire tout le long, c'était le fait qu'ils soient des frontliners, qu'ils soient en première ligne face à l'élévation du niveau des mers, face au besoin de traiter les déchets avant qu'ils ne partent en mer, face à l'économie aussi de leur territoire quand il y a des pêcheurs qui en vivent, etc. Et beaucoup de maires, je crois qu'on parlait de plus de 400 ou 450 maires et présidents de région qui étaient là normalement samedi, du monde entier, se sont réunis justement pour porter ce message du rôle des pouvoirs locaux en fait, et du fait que oui, l'UNOC est là pour permettre aux grands États de négocier sur les grandes problématiques. Malheureusement, c'est souvent hors sol, un petit peu littéralement, alors que les maires et les chefs de région
sont confrontés aux problèmes réels. Oui, alors je voudrais que tu me précises un point. Les limites communales, par exemple de Nice ou Nice Métropole, s'arrêtent à la mer ou elles vont jusqu'aux limites territoriales françaises ? Où s'arrête la limite communale ?
On parlera plutôt de compétences, puisque c'est le rôle des collectivités territoriales, notamment, de gérer l'aménagement, la planification, tout ce qui est occupation des sols sur le bord de la mer, et de gérer les risques de submersion, gérer les risques de catastrophes naturelles, mais gérer aussi les effluents, gérer l'assainissement. Donc c'est toutes ces compétences, tout ce panel de compétences qui va déterminer ce qui est, en fait, qui repart ensuite dans la mer. Et c'est beaucoup là-dessus que les gouvernements locaux échangent, et aussi sur le fait qu'ils soient en première ligne face, en fait, aux conséquences du réchauffement climatique, face notamment à l'élévation du niveau des mers, face à l'augmentation des risques de tempêtes, etc. Et pour parler de manière un petit peu plus concrète, ce que je voudrais parler là, ce que je voudrais évoquer là, c'est notamment une rencontre que j'ai pu faire samedi, la rencontre avec le maire de Miquelon-Langlade. Alors c'est une toute petite commune en France, je ne connais pas forcément nécessairement le nom parce que c'est pas en France hexagonale, c'est au large du Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc dans nos outre-mer, très concernés par ces questions océaniques. Et en fait, ce maire doit gérer le déplacement de l'intégralité de son village. En fait, et c'est un des premiers villages à devoir être en fait déplacé à cause des questions climatiques.
Est-ce que tu peux déplacer ton téléphone, là la liaison est pas bonne?
Ah non. Ben pourtant, on ne bouge pas trop, on n'est pas sur un bateau.
Ah ouais, ben
là, vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Mais donc, une ville française, la ville de Miquelon-Langlade, est confrontée au fait de devoir déplacer sa population à cause de l'élévation du niveau des mers.
Oui, ça, on avait entendu. Ils sont combien, donc, à Saint-Pierre et Miquelon, concernés par ce...
Alors, dans ce village, je crois qu'ils sont 600. On est sur des petites échelles, mais on est quand même sur des échelles de villages, sur un territoire français. Et sur des villes qui sont donc confrontées aujourd'hui, on parle souvent de l'élévation du niveau des mers à horizon 2100, etc. En fait, là, c'est tout à fait réel. Aujourd'hui, des maisons sont déplacées.
C'est une réalité de la France arctique.
Du fait de cette élévation sur le territoire français. Et ça, ce sont les maires, notamment, et les territoires en bord de mer qui y sont confrontés.
D'accord. Ok, alors donc effectivement, la mobilisation des villes et des pouvoirs locaux, c'est pour se défendre contre l'avancée de la mer, mais est-ce qu'elle s'organise aussi pour éviter de rejeter en mer parce que les plastiques dont on parlait à l'instant, quelque part, c'est quand même des déchets urbains qui sont pour une bonne part laissés dans... rejetés à la mer. Il y a même certaines décharges, notamment en Espagne, pour pas être très gentil, qui se déversent dans la mer. On a une réglementation européenne là-dessus depuis des années et des années, et quand même, on saccage, on dégueulasse la mer en rejetant... c'est notre poubelle géante, c'est de la folie, quoi.
Et du coup, pour te répondre, tout à fait, et là aussi c'est une formule qu'on entend souvent, les États discutent et les maires agissent. En fait, la gestion de l'assainissement, la gestion des déchets, la gestion des effluents, c'est justement les villes qui sont occupées. Tout à l'heure, il y avait une table ronde dans le cadre de l'UNOC, hein, de cette conférence dont on parle, qui réunissait justement des maires et qui réunissait par exemple une élue de la ville de Marseille qui expliquait comment elle travaille avec les associations locales, qu'elles travaillent sur les questions d'éducation avec les écoles aussi, pour travailler sur non seulement récupérer les déchets, et malheureusement le faire avec aussi les habitants, les ONG, etc., puisque c'est ce qui permet de mobiliser et d'éduquer en même temps, parce que le service public lui-même de ramasser le déchet une fois qu'il est sur place ne suffit pas. Il faut travailler en amont
David
à
Pietre,
et ça les villes le font.
On va aborder notre troisième sujet. Tu reviendras nous préciser, parce qu'il en est sorti de l'UNOC pour les pouvoirs locaux, des décisions, et puis tu nous parleras, je dirais, des avancées, des coopérations qui peuvent être mises en place.
Pour faire cette espèce de transition, je voudrais dire que si le niveau des maires s'élève, je pense que à nous aussi de nous élever et de nous élever dans la capacité de conscientiser et de sensibiliser davantage.
Eh bien, merci Monsieur Ben pour ces bonnes paroles.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, voilà. Bah, écoutez. Depuis la liaison de Nice, on va revenir dans le studio avec Nicole qui va nous parler de sa deuxième vie maritime, on va dire, puisque après avoir été scientifique, consultante et défenseuse de la mer, elle est aussi devenue artiste pour magnifier ce milieu et partager ces merveilles de la mer. Alors Nicole, vas-y. Alors, depuis quand tu dessines et tu as toujours dessiné ?
Je dessine depuis ma jeunesse. J'ai d'abord fait un an de ça à plein temps après mon bac. Hein. Et puis après, j'ai décidé de faire de l'écologie parce que j'avais toujours deux passions. L'art, la peinture et puis l'écologie. Bon, j'ai fait d'abord l'écologie peut-être par souci financier. Parce qu'avec l'art, je me suis dit je ne gagnerais pas ma croûte, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Mais moi, maintenant, je voudrais témoigner en fait de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que j'ai crapahuté dans des zones magnifiques dans les mers du globe, j'ai sillonné la planète avec des missions scientifiques de terrain, j'ai vu la forêt vierge de Bornéo, j'ai vu les mangroves, j'ai vu les pingouins dans la terre de feu, enfin, et ça je témoigne de ce que j'ai vu dans ma peinture en fait, parce que je me suis rendu compte qu'en tant que scientifique j'étais pas libre de dire ce que je voulais, j'étais censurée, il y avait des choses...
Oui, mais tu travaillais pas au CNRS, tu travaillais dans...
Non, je travaillais...
Dans des entreprises.
Je travaillais dans une industrie pétrolière pendant 10 ans et ensuite dans une ONG, comme je disais, au VVF international.
Tu devais être plus libre quand même au VVF.
Au VVF, oui, au VVF, oui, mais bon, dans l'industrie pétrolière, c'était pas évident, c'est-à-dire qu'on faisait des études, mais qui n'étaient pas vraiment utiles... pas tellement écouté en fait, on était un peu un alibi si je puis dire.
On va pas ouvrir le dossier.
Non, on va pas ouvrir le dossier. Ce que je veux dire moi, c'est que je voudrais témoigner de ce que j'ai vu et c'est ce que j'essaye de faire dans la peinture parce que je me suis rendu compte que la science n'a pas réussi à bien communiquer pour pouvoir changer la société assez vite et assez fortement si je puis dire et qu'on doit chercher des nouvelles manières de communiquer et que ce que je propose moi c'est l'interdisciplinarité entre l'art et la science.
D'accord, mais effectivement des images de la mer on en a depuis quelques décennies quand même.
Voilà,
on a commencé par le commandant Cousteau,
des photos c'est une chose, moi ce que je fais c'est autre chose.
Alors c'est quoi la différence pour le spectateur? En quoi une peinture va apporter des choses différentes qu'un documentaire ?
Alors, je vais expliquer. Dans une peinture, d'abord, il y a les lois de l'art, de la beauté, qui priment. Donc, on touche une autre émotion. Quand une personne, quand le regardeur s'approche d'une œuvre d'art, il est touché autrement. Il sera certainement plus touché, ou il y a des gens qui ne seront pas touchés par les scientifiques, parce que les gens leur disent au niveau, avec des termes scientifiques très précis et des grands chiffres, ça ne les touchera pas. Par contre, quand ils verront une bonne toile, moi j'ai un journaliste qui a dit de mon travail, une bonne toile vaut mieux qu'un long discours. Je vous invite à voir mon site, hein, parce que c'est difficile de montrer de la peinture à la radio. Donc oui, je vous invite à regarder mes peintures.
Ça ne facilite pas la tâche.
Vous faites nicoleking.fr, N-I-C-O-L-E-K-I-N-G. Et là, vous verrez que ce sont les beautés de la nature qui sont magnifiées, mais également, j'alerte sur les menaces, tout en n'étant pas sombre, parce que ma peinture est très colorée, et ça parle beaucoup aux jeunes. Il y a des réactions très, très positives des enfants. Et donc, je pense qu'on a besoin de changements transformateurs. Et donc, moi, ce que je propose, et c'est novateur ce que je fais, j'explique pédagogiquement, dans ma peinture, des choses qu'il est difficile de montrer et d'expliquer autrement. Et c'est une autre façon de sensibiliser. J'alerte sur des choses grâce à l'art. Et mon art a du sens, mais pour moi, c'est un art qui doit être beau. Donc, je suis dans la tradition. Malheureusement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes d'art et que l'art qui est subventionné, qui est mis en avant par le gouvernement français, c'est l'art conceptuel, l'art contemporain conceptuel, qui refuse la beauté. Ce qui veut dire que des artistes comme moi qui travaillons dans la tradition, qui veulent faire des œuvres belles, qui ont du sens, nous ne sommes pas du tout soutenus. On est de l'art caché. C'est ça que j'essaye d'expliquer.
Mais de l'art archaïque, quoi, dans leur vision...
Oui, ils nous considèrent un peu comme ringards parce qu'on fait de la peinture figurative qu'on veut belle. Mais moi, j'estime que mes peintures, si vous allez les voir sur mon site et dans le livre que j'ai publié qui s'appelle « Pour une eau vivante », j'ai publié récemment avec Christian Norbergen. Donc lui, il est critique d'art et philosophe. Il a écrit les textes d'esthétique et moi, j'ai écrit les textes scientifiques de l'écologie et j'explique mes peintures et j'explique tous les thèmes important de pollution, de biologie marine dans mon livre. Il y a 5 chapitres. Et c'est une autre façon de communiquer. J'alerte avec l'art. Et on touche d'autres personnes qui ne seraient pas touchées autrement. C'est une autre façon d'alerter. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est lié à la notion de beauté dans notre société. Il faut se rendre compte qu'on a un effondrement de la notion de beauté dans notre société. C'est très grave.
Comme les insectes dont on parlait, les populations d'insectes voilà. S'effondrent.
Et donc, il faut apprendre à s'émerveiller en regardant la nature qui nous entoure et à l'admirer.
Alors, moi,
l'art peut aider.
Il y a quelque chose qui me frappe, notamment quand j'ai besoin de chercher des musiques pour illustrer nos émissions, c'est que, que ce soit pour la mer ou d'autres sujets, j'ai l'impression que l'écologie... inspire pas énormément les artistes. Alors on me dit
c'est récent, ça commence, oui.
Mais donc peut-être qu'un jour il faudra faire une émission spécialement consacrée à ça, sur l'art et l'écologie. C'est vrai que pour nos ancêtres, ils avaient peut-être pas, comme ils n'avaient pas la télé, pas grand-chose ils n'avaient que les animaux pour se divertir sur les parois, l'art pariétal est directement inspiré de thèmes de nature.
Oui, de biologie, et c'est très beau, donc ils ont aussi mis en valeur la beauté.
Oui, mais on ne va pas revenir au...
On ne dit pas ça. Moi, quand je fais mon travail d'artiste militante, en fait, j'ai une technique particulière que j'ai mis au point. J'utilise d'une part la technique écologique du geste, du dessin et de la peinture, que j'utilise pour illustrer la vie. Et quand je veux parler de la pollution, des plateformes pétrolières, parce que comme je travaille dans le pétrole, je peins beaucoup des choses en lien. Donc je mets des plateformes dans ma peinture. D'ailleurs, j'ai fait des peintures que personne n'avait fait avant moi. J'ai peint des plateformes qui ont explosé, notamment Deepwater Horizon, Elgin en mer du Nord en 2012, plateforme de gaz de Total qui a explosé, dont personne n'a parlé. J'en ai fait une énorme peinture parce que je voulais le montrer. Donc j'utilise... Quand je parle de la pollution, j'utilise une autre technologie, j'utilise du report photo. C'est-à-dire que ma technique a du sens aussi.
D'accord.
Et j'ai mis des années à la mettre au point et à étudier ça grâce à mon
maître. Est-ce qu'il y a d'autres, artistes, amis, ou pas forcément en peinture, mais en musique et autres, à qui tu peux échanger, tu peux voir comment la nature et l'écologie en général puissent être une source d'inspiration pour créer aujourd'hui.
Oui, il y a des sculpteurs. Moi, j'ai exposé à l'espace Peugeot à Paris avec un sculpteur qui faisait uniquement des animaux à partir de métaux récupérés, qu'il ressoudait, des portes de voitures abîmées, il faisait des requins avec ça. Donc il y a des artistes qui travaillent...
Il y a un discours, écologique au sens... écosystémique de la chose, de ce grand univers du vivant, qui aujourd'hui, s'il y aurait moyen de faire un courant, moi je me dis, l'écologie manque de soft power.
Oui, moi je pense qu'il y a, c'est l'avenir à mon avis, et c'est très pédagogique aussi, c'est-à-dire que ça, c'est positif, on ne peut pas toujours annoncer que les catastrophes. Là, on montre la beauté du vivant, mais on le fait de manière, en mettant en avant des données scientifiques. Par exemple, j'ai fait une peinture qui s'appelle « Infiniment petit », en souvenir d'une espèce de plancton que j'ai pêché, moi, et que j'ai découvert à Bornéo, qui porte mon nom, qui s'appelle Acartiella nicolae. C'est un petit crustacé copépode que j'ai ramené et qui a été effectivement déclaré espèce nouvelle. Et donc, j'ai fait une peinture où il y a du plancton et il y a une grande molécule au milieu pour montrer...
T'aurais eu bien tort de t'en priver.
Voilà.
Mais est-ce que ça se mange ?
C'est les poissons qui les mangent,
bon,
les copépodes.
Voilà, okay,
c'est
parfait.
La nourriture principale des poissons.
Impeccable. Bon, bah, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous avez compris, ça, on revient sur l'UNOC. Donc, ce sera le débriefing. On verra les conclusions. Dans 15 jours, on reviendra aussi sur des conclusions sur l'agriculture. Et puis, puisqu'il me reste 30 secondes, il me reste à remercier nos amis de la technique, avec, il ne faut pas que je me trompe de nom, hop, voilà, avec Armand et René Clancy, nouvelle animatrice, et puis Renaud Poussin. Et puis Armand, j'ai écorché son nom, attendez, Armand Gury, bien sûr. Eh bien, à la semaine prochaine, donc... Une bonne semaine dans les arènes des océans. Voilà, peut-être que Poséidon nous inspirera. À bientôt, bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.